Santé, avec l'assurance d'être en de bonnes mains. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le 20e congrès de pneumologie de langue française vient de se dérouler à Lille. Il y a entre autres été question des effets du cannabis sur les poumons, car la France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe. 160 millions de personnes dans le monde consomment du cannabis et l'on constate que plus la législation est répressive, plus la consommation est forte. En France, depuis la loi Evin il y a 25 ans, la consommation de tabac par habitant a diminué de 50%, celle de cannabis a augmenté de 20% chez les neufs, chez les jeunes. Le cannabis a des effets respiratoires liés à la fumée, infections, bronchites chroniques, cancer, et ces effets peuvent être supprimés ou en tout cas réduits par d'autres modes de consommation. C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Bertrand Dotzenberg, qui est pneumologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et nous aurons également au téléphone le docteur Georges Ouédraogo, qui est pneumologue, tabacologue au CHU Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Et en fin d'émission, nous parlerons du virus Zika, car l'OMS organise aujourd'hui une réunion d'urgence sur le sujet. Professeur Bertrand Dotzenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, alors que vous étiez ce week-end justement à Lille pour ce congrès de pneumologie de langue française, où vous avez abordé ces questions des effets du cannabis sur la santé. Alors, quels sont ces effets? Et peut-être qu'avant de nous expliquer les effets, vous allez nous parler des différents modes de consommation du cannabis, parce que les effets ne sont pas les mêmes suivant le mode de consommation.
Oui, tout à fait. Le cannabis peut être ingéré avec des spice cakes et d'autres, ou dans des yaourts, des ragoûts, etc.
C'est ça, dans des gâteaux, donc, des choses comme ça.
Dans des gâteaux, un effet donc digestif, et peut être pris en inhalation. Alors, soit avec des joints, c'est-à-dire qu'on met de la résine de cannabis et puis une cigarette de tabac, on mélange ça dans du papier un peu long avec un petit filtre et on le fume. Donc là, on fume à la fois du tabac, du cannabis. C'est la forme la plus répandue en France, parce que de transporter en trafic les boulettes de shit, c'est plus simple que d'avoir des feuilles ou d'avoir d'autres systèmes. Le deuxième mode de consommation, mais qui est fait surtout en Hollande, où on a de la résine, mais avec des plantes à fumer, qui sont très peu répandues en France et qui sont pourtant prévues par la législation européenne qui va être mise en application dans 2 mois. Il y a un article 21 de la directive tabac qui décrit ces plantes à fumer, les avertissements sanitaires qu'on doit mettre dessus, etc. La troisième façon de consommer du cannabis sans tabac, c'est de prendre des feuilles de marijuana, donc de fumer
directement les feuilles.
Directement les feuilles de cannabis, séchées juste comme il faut pour que ça brûle bien, ni trop ni pas assez, et qui est un mode de consommation assez fréquent en Hollande où partout les jeunes qui se fabriquent eux-mêmes leur cannabis dans différents pays. Et enfin, il y a la dernière façon qui est la plus répandue, par exemple, dans les États américains où l'on a autorisé le cannabis, c'est la vaporisation, qui est un système qui permet de prendre du cannabis sans prendre de fumée, donc une forme moins toxique.
Et la vaporisation, c'est un système proche de la cigarette électronique, en fait?
Non, les vaporisateurs les plus connus, ça ressemble plutôt à une cafetière ou une bouilloire dont on prend la vapeur. Il y a des systèmes qui sont miniaturisés. Si on veut vraiment mettre de la cigarette électronique, en fait, on met dedans non pas du cannabis, mais on met certains cannabinoïdes. Et là, il y a des incertitudes. Il y a beaucoup de produits. Il y en a qui sont plutôt moins dangereux que le cannabis en entier, mais d'autres qui sont beaucoup plus dangereux que le cannabis. Et il faut pas toucher à ces produits aussi longtemps qu'ils sont pas bien identifiés, bien connus.
Alors, quels sont les dangers sur la santé, justement, suivant le mode de consommation? On va peut-être commencer par la résine, puisque c'est le système qu'on utilise entre autres en France.
Pour le pneumologue, le cannabis est d'abord toxique pour le poumon, parce que la fumée rentre dans le poumon, et quand on met dans des machines à fumer du cannabis ou du tabac, on a en gros 6 fois plus de particules, 6 fois plus de monoxyde de carbone et de produits toxiques dans un joint de cannabis que dans une cigarette. Donc en gros, un paquet de cigarettes, c'est 3 joints, c'est à peu près équivalent. Et cette fumée va pénétrer dans les voies respiratoires, irriter les voies respiratoires, faire de la bronchite chronique, on tousse, on crache, va favoriser beaucoup les infections. Il y a 2 à 3 fois plus de grippe, de pneumonie, de tuberculose et de toutes les infections.
C'est-à-dire que le système immunitaire fonctionne moins bien, quoi, en gros.
Le poumon irrité en permanence par cette fumée ne peut pas se défendre. Et puis après, en allant au fond du poumon, ça va donner de l'emphysème, l'insuffisance respiratoire, et puis des cancers du poumon. et les cancers du poumon qui vont survenir dès qu'on a fumé, par exemple quand on a fumé 20 joints annés, donc un joint pendant 20 ans, ou 20 joints pendant un an par jour, alors on double son risque de cancer du poumon, et puis après ça monte à peu près comme pour le tabac. Et après, la fumée de cannabis rentre dans le corps et a un effet cardiovasculaire et autres, en sachant que toutes les études sont difficiles, parce que la plupart des gens consomment le cannabis avec le tabac, et c'est un des problèmes sérieux en France. Beaucoup de jeunes veulent s'arrêter de fumer, donc ils s'arrêtent de fumer, ils prennent plus de nicotine, puis le week-end ils prennent un joint tabac cannabis et le lundi ils arrêtent le cannabis mais ils rachètent le paquet de cigarettes.
Oui, c'est ça.
Donc le tabac est une drogue qui est très très addictive, alors que le cannabis est un peu moins addictif. Mais par contre, le cannabis a des effets sur le cerveau, que ce soit en prise aiguë, qui sont variables avec la concentration des produits, et c'est un des gros problèmes des cannabis ingérés, c'est que c'est très difficile de savoir la dose qu'on prend. Hein, c'est comme si on avait des médicaments et quand on le prend, on ne sait pas si on prend un comprimé ou 10 comprimés, donc il y a des effets secondaires possibles. Sur le cerveau à long terme, on a des effets. L'effet principal, c'est quand même la schizophrénie. C'est-à-dire qu'on est un jeune normal à 15 ans et quand on vous retrouve à 30 ans, vous avez 3 fois plus de chances d'être schizophrène si vous êtes consommateur de cannabis.
Donc ça, c'était essentiellement sur le mode de consommation sous forme de résine, encore que l'effet sur le cerveau, c'était pour l'ensemble. Sur les autres modes de consommation, est-ce qu'il y a moins de risques?
Quand vous vaporisez le cannabis, vous n'avez pas de bronchite chronique, vous n'avez pas un excès d'infection et vous n'avez pas de cancer du poumon. Mais vous avez quand même la schizophrénie. Hein,
c'est pas sans risque, c'est important de le préciser. Voilà. On va voir après l'impact des législations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge ces personnes justement qui consomment du cannabis? Je vous propose d'écouter Redouane qui a 26 ans, il est chauffeur routier. Il a fumé ses premiers joints à 20 ans. Au départ, il voulait un petit peu faire comme ses amis, juste pour savoir quel effet ça fait. Il a commencé par un ou deux joints par jour. Puis il a fortement augmenté sa consommation. Une dépendance qui est devenue assez obsessionnelle pendant presque 5 ans avant qu'il ne décide d'arrêter il y a un an par en fait peur de perdre son travail. Des propos recueillis par Tout Neuf Mendy.
Je consommais à peu près par jour 20 euros de cannabis. Ça fait à peu près une vingtaine de joints, voire une trentaine. Les effets durent à peu près 7 heures, 8 heures. On se sent bien, on est à l'aise, on est détendu, on est ailleurs. On repousse tout à demain. Des fois, ça me calmait quand j'étais en colère, où j'arrivais pas à trouver d'emploi, je cherchais, je fumais un joint. Ça fait passer le temps aussi. Souvent, on prend tout à la légère, on oublie nos soucis.
Quels sont les effets du cannabis sur votre santé?
Ça m'a fait perdre beaucoup de poids, une perte d'appétit. Parfois, quand on fume trop, on a peut-être des hallucinations. Mais aucun problème de santé. C'est clair que quand on se remet à courir, rien que 100 mètres, on sent tout de suite que nos poumons sont encrassés. Mais le cannabis est une drogue douce. Au début, quand je fumais, je travaillais pas. Au bout de 2 ans, j'ai réussi à trouver du travail. Et j'ai gardé mon habitude de fumer. Par contre, je fumais pas quand j'étais au travail, par risque de que mes collègues ou mon employeur s'en aperçoivent.
Le fait que vous risquiez la prison pour consommation de cannabis, ça ne vous a jamais fait peur?
Non, pas vraiment. Ça fait partie du jeu, mais j'ai jamais eu peur. Donc, il y a un an, j'ai arrêté. Je suis parti une semaine en vacances. Pendant ces une semaine-là, j'ai pas fumé et quand je suis revenu, j'ai décidé de poursuivre et ça a marché.
Aucune rechute depuis?
Aucune. Ça me donne plus envie de fumer. Je me sens bien sans le cannabis.
Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter?
Je suis professionnel de la route. J'avais tout le temps peur de me faire contrôler. Je pouvais perdre mon travail. J'ai décidé d'arrêter. Surtout aussi pour le budget, j'avais 300 euros qui partaient tous les mois. Il faut toujours faire attention à cacher le cannabis.
Comment avez-vous fait? Où avez-vous trouvé la force d'arrêter?
La seule force, c'est la volonté et rien d'autre. Et puis aussi, j'ai arrêté pendant un certain moment de fréquenter mes amis qui, quand on se réunissait pour fumer un joint j'évitais de me rendre dans des endroits où je pouvais en avoir.
Aujourd'hui, quelles séquelles avez-vous gardées de votre ancienne vie de fumeur de cannabis?
Je n'ai pas de séquelles. Je commence à avoir un appétit. Je mange de plus en plus. Je fais du sport. Je me suis adapté à un quotidien plus normal. Malgré ça, deux fois, ça m'arrive d'être avec des amis qui en fument. Et quand je les vois vraiment déconner, rigoler, dire des conneries, ça me donne envie. Mais au bout de 30 secondes, j'ai ma morale qui me dit de plus rechuter dans cette connerie-là.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des risques du cannabis pour la santé avec le professeur Bertrand Dotzenberg. Professeur Dotzenberg, j'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Redouane.
C'est un exemple assez courant qui, heureusement, s'est bien terminé. Il ne s'est pas terminé avec son poids lourd en travers de l'autoroute et des voitures sous son poids lourd. Et c'est une bonne chose, mais c'est difficile. Il raconte bien comme c'est difficile de s'en passer, comme quoi le cannabis, quand on est dans une bande de consommateurs de cannabis, c'est difficile de s'en sortir et de s'éloigner comme il l'a fait pour s'arrêter, de partir une semaine en vacances et de couper, de casser ses habitudes. C'est une bonne chose ou d'avoir, on voit souvent des jeunes qui ont une nouvelle copine ou quelque chose qui change dans la vie. Et là, c'est facile de changer la consommation parce que la consommation de cannabis rend un petit peu passif. On le prend parce qu'on l'a pris et puis on le reprend parce qu'on l'a toujours pris. On sait plus très bien pourquoi, ça calme. Ça rend cool dans son canapé, mais une vie toujours cool dans son canapé, c'est pas une belle vie.
C'est pas forcément une belle vie. Il le dit à un moment, Redouane, le fait que ce soit interdit n'était finalement pas du tout un obstacle pour lui. Ça ne le gênait pas. Quel est l'impact d'une législation répressive sur la consommation de cannabis? Je l'ai dit en début d'émission, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe.
Il y a l'interdiction et l'interdiction totale et les règles. Par exemple, pour le tabac, l'alcool, quand on est chauffeur routier, on peut pas consommer d'alcool sur la route. Il y a des règles. Il faut être à 0 d'alcool ou 0,20 d'alcool. Ça dépend de ce qu'on conduit. Donc, c'est des règles comme ça peuvent être édictées aussi, pourraient être édictées également pour le cannabis. Mais l'interdiction totale est pour les jeunes et les moins de 35 ans tellement éloignée à des années-lumière de la réalité qu'elle peut pas être appréhendée. Si on veut changer les comportements, mettre des règles et des habitudes de vie, il faut qu'il y ait une réglementation qui soit pas des kilomètres et des kilomètres de la réalité de la vie. Pour l'instant, la législation est tellement en dehors que les gens ne le font pas.
Ça n'a pas de sens.
Quand il est arrivé au travail, il a fait un peu plus attention parce que là, c'était le règlement intérieur, c'était quelque chose de plus proche, il pouvait perdre son travail, alors que quelque chose qui est si loin, c'est inimaginable.
Mais est-ce qu'il y a des études, je crois qu'il y a des études qui ont montré l'absence de lien entre le statut pénal et le niveau d'usage, c'est-à-dire les quelques États aux États-Unis qui ont légalisé le cannabis ou les Pays-Bas n'ont pas forcément une consommation plus forte que la nôtre où c'est interdit en France.
Tout à fait. Si on prend même l'Europe, en France, 45% de consommateurs, dont 25% dans l'année. Aux Pays-Bas, c'est 29% à la place de 45, alors que c'est beaucoup plus libéral. Donc, il n'y a pas la preuve inverse non plus. Mais moi, mon intime conviction, c'est que ceux qui sont pour le cannabis en France, actuellement, et pour l'expansion du cannabis, sont pour la pénalisation actuelle. La pénalisation actuelle nuit à la santé publique et augmente le nombre de consommateurs de cannabis. Il faudrait que les hommes politiques qui prennent la parole pour dire le contraire réfléchissent deux secondes.
C'est ça. Mais alors, donc ça veut dire que vous êtes pour une dépénalisation du cannabis?
Je suis pour une dépénalisation pour être efficace. Je suis contre la consommation de cannabis comme je suis contre la consommation de tabac. Ouais. Je sais très bien que si on interdit le tabac, bannissement du tabac, ça ne marche pas. Je sais bien qu'on a interdit l'alcool aux États-Unis, ça ne marche pas. Si on veut réglementer, il faut donner des règles. On vend pas au moins de 18 ans, on n'a pas fumé quand on conduit son camion, etc. Et avec ça, on arrive à avoir des produits plus sains, des actions de prévention chez les jeunes et chez les adultes. Et donc, on réduit la consommation et on réduit les risques. On fait une œuvre de santé publique en mettant une loi adaptée à ce qui se passe actuellement.
Et alors, quand vous dites ça, donc finalement d'être pour la dépénalisation, même si vous le dites bien, mais de façon tout à fait encadrée, on vous prend pour quoi? Pour un affreux révolutionnaire? Il y a encore cette
83% des jeunes français interrogés par l'Europe disent comme moi. J'étais au congrès d'ophtalmologie, j'en ai parlé beaucoup dans les couloirs. Les pneumologues sont finalement jeunes, ils pensent aussi comme moi. Et il y a 3% qui veulent la liberté absolue, prendre du cannabis à tous les coins de rue et la donner dans les biberons des bébés. Mais ça, il faut pas. Et plus on dit ça, plus ça s'éloigne. Et puis les politiques ne peuvent plus parler du cannabis. Les seuls qui peuvent parler, c'est ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, ils se prennent des volées de bois vert, de SMS et de tweets dans tous les sens, et ils peuvent plus en le faire. Donc il faudrait que le débat se calme et qu'on puisse en parler. Si les politiques veulent en parler, il faut faire ça transparti. Les huis clos, il faut refaire les débats de 76 sur l'avortement et des choses comme ça, des choses qui soient près des gens.
C'est ça. Et professeur Dotzenberg, qu'on soit bien clair, être pour la dépénalisation comme vous l'êtes, ça ne veut pas dire être pour la consommation.
Je dis strictement le contraire. Je dis être pour la pénalisation, c'est favoriser la consommation. Depuis 1970 jusqu'à 2016, on a 46 ans d'expérience pour montrer que ça augmente la consommation. On est les champions d'Europe de la consommation et les champions d'Europe de la répression. Et c'est quelque chose de clair. C'est à la seconde, on pense que quand on interdit quelque chose, ça marche. Non, il faut le faire intelligemment. Il faut mettre un cerveau entre ses paroles et ce qu'on dit, et ça marche mieux.
On a Ben qui nous appelle de Niamey au Niger. Ben, bonjour.
Bonjour, Claire est là.
On vous écoute.
Oui, c'est mon nom Ben, j'ai 25 ans. Je fume du cannabis depuis l'âge de 18 ans. Et je suis marié. J'aimerais savoir comment arrêter de fumer ce cannabis, parce que chaque fois j'ai ce problème dans mon foyer. Même des fois, mon frère me parle de ça, il faut que j'essaie de fumer et je n'arrive pas à...
Vous n'arrivez pas à arrêter, mais votre femme aimerait bien que vous arrêtiez. Alors, professeur Dotzenberg.
Quand on commence à prendre le cannabis tous les jours et dès le réveil, c'est difficile à s'arrêter. Comme quand on prend de l'alcool dès le réveil, c'est difficile d'arrêter l'alcool. Donc, en France, on a des consultations jeunes consommateurs, des consultations d'addictologie. Mais pour le cannabis, il n'y a pas de méthode qui existe. Il faut essayer de se couper un petit peu de son lieu habituel. Et si on arrête de consommer pendant quelques temps, il n'y a pas d'effet très grave, en fait. Il y a un petit peu, on est un peu moins bien pendant une quinzaine de jours, mais il n'y a pas d'effet grave. Et une fois qu'on a arrêté, il faut tout arrêter. Vous avez la chance d'avoir une femme qui vous donne des bons conseils. À la limite, il faudrait qu'elle vous plante le cannabis et qu'il n'y ait plus de cannabis chez vous. Vous l'avez où, votre cannabis? C'est vous qui le cultivez? On l'achète? Il vient d'où, là? Votre cannabis, il vient d'où? Vous l'achetez, hein? En plus, ça vous coûte cher, non?
Je l'achète. Oui, ça coûte cher. Pas moins de 100 dollars par mois. J'ai gaspillé uniquement pour acheter le cannabis.
Donc, ce serait peut-être mieux de pas dépenser si stupidement votre argent. Donc, il faut décider, vous décidez un jour, ben, comme cadeau à votre femme,
ou comme cadeau à vous-même aussi,
ou à vous-même et à votre femme, d'arrêter de fumer. Vous planquez tout le cannabis à la maison, vous voyez pendant 15 jours, vous voyez plus les gens avec qui vous consommez du cannabis, et puis vous allez tenir. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider autour, c'est mieux, mais il n'y a pas de méthode médicale. On a des méthodes pour l'héroïne, un petit peu pour l'alcool et pour le tabac. On n'a pas de médicaments,
entre guillemets,
sauf de calmer un petit peu les gens quand ça va mieux. Mais à 25 ans, il devrait y arriver s'il n'a plus de cannabis.
Ouais. Ben, j'ai juste une question à vous poser. Vous consommez le cannabis sous quelle forme?
Sous forme, j'enroule juste comme la cigarette, je fais.
Donc
c'est vous achetez des joints, vous achetez de la résine ou vous achetez de l'herbe? Des feuilles?
Non, j'achète de l'herbe.
Oui.
Et que vous fumez avec le tabac, c'est ça? Donc ce que vous dites, professeur Zonberg, dans ces cas-là, c'est aussi double danger pour la santé.
C'est double danger pour la santé, mais de prendre du cannabis dès le matin, c'est vraiment qu'on est addict et qu'il y a un problème médical et il faut arrêter. Et c'est plus facile d'arrêter le cannabis que d'arrêter le tabac ou l'alcool pris le matin.
Ça, c'est important de le dire. On est moins dépendant finalement au cannabis qu'au tabac ou à l'alcool.
Oui.
Donc un bon moyen d'essayer d'arrêter. Merci beaucoup Ben pour ce témoignage et bon courage à vous. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler des dangers du cannabis pour la santé. Je sais qu'il y a Marie qui est en ligne et qui attend pour poser sa question. On vous prendra juste après les informations. Je redonne le téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Retrouvez Priorité Santé après le flash info avec Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier. L'assurance.
7 milliards de voisins. Priorité santé. Claire Hédon.
Bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du cannabis sur la santé à l'occasion du 20e congrès de pneumologie de langue française qui vient de se dérouler à Lille ce week-end et où il a justement été question de ces dangers du cannabis pour la santé. On en parle avec le professeur Bertrand Dotzenberg qui est pneumologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un téléphone si vous voulez nous appeler, le 33 1 84 22 75 75. Et on a Marie qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une question à poser au professeur Dotzenberg, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'avais appelé. Oui, en fait, j'ai un frère qui depuis, je pense, plus d'une dizaine d'années, 15 ans maintenant, parce que nous, on l'a découvert en 2005, ça fait plus de 10 ans, mais on sait qu'il fume depuis plus de 15 ans. Donc nous, notre problème vraiment, c'est de pouvoir l'aider en fait. Et on ne sait vraiment pas comment s'y prendre.
Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je trouve que c'est une question importante, professeur Dotzenberg, parce que l'entourage est souvent très démuni face à un fort consommateur de cannabis.
Alors la première chose, c'est de maintenir un dialogue, c'est-à-dire de plus en parler, de se fâcher, de s'énerver, ça ne marche pas, ça fait l'effet inverse. Donc faut toujours l'aimer et s'occuper de lui. Deuxièmement, faut savoir s'il consomme seul ou s'il consomme avec des copains. Tous ceux qui consomment en bande avec des copains dans cette situation, l'idéal, c'est d'essayer de les emmener 15 jours en vacances ailleurs, faire du sport ou un truc sain, avec un contrôle de pas de consommation, comme on a eu en début d'émission, quelqu'un qui nous racontait, parti une semaine en vacances, il pouvait pas
obligé
consommer.
Obligé d'arrêter avec ça.
Obligé d'arrêter, et en revenant, il s'est dit, finalement, ça serait l'occasion de continuer à le faire. C'est les deux principales. Mmh. S'il est tout seul à prendre pour des raisons médicales, c'est plus difficile, mais là encore, il faut l'aider à mettre des règles, à diminuer la consommation, puis arrêter la consommation, mais il n'y a pas de médicament miracle, et après, c'est de la prise en charge, j'allais dire psychologique, mais c'est du face-à-face en fonction de ce qu'il dit, de ce qu'il veut faire de sa vie. Le problème, c'est que, en consommant du cannabis, on perd un peu l'idée de qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, on vit dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on ne voit pas bien les effets secondaires, à part peut-être celui de l'argent qu'on dépense pour acheter ces boulettes.
Oui, ce que nous ont dit à la fois, je dirais, le témoignage qu'on a eu en début d'émission et l'auditeur qu'on a eu après, Ben. Marie, est-ce que justement vous arrivez à en parler avec votre frère?
Oui, parce qu'on a essayé de l'éloigner. Il avait un groupe d'amis vraiment bizarre. On a essayé de l'éloigner. On l'a envoyé à l'étranger pendant 4 ans. Il est revenu récemment, mais là, on vient de se rendre compte, c'est ma mère même qui m'a prévenu, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout arrêté. Il est stable, il a un travail, il a un métier. Là, on le pousse à se marier pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Mais on n'y arrive pas. On en parle avec lui, j'en ai parlé hier même avec lui, pour savoir c'était quoi le problème, parce qu'il a une vie assez rangée, c'est quelqu'un de très calme. Il a un bon boulot, il gagne bien sa vie. On n'a pas trop de problèmes particuliers. C'est vrai que notre famille a traversé beaucoup de moments difficiles. Donc, dont lui et moi qui sommes les aînés, on a gardé des séquelles quand même. Moi, je m'en suis sortie beaucoup mieux, je pense. Je pense que c'est le rapport, en fait, avec le cannabis.
Ouais. Mais, et vous sentez qu'il a envie d'arrêter? Marie, vous sentez qu'il a envie d'arrêter ou pas?
C'est ça mon problème, en fait. Moi, je lui en parle parce que je suis la personne qui arrive à aborder le sujet avec. Ma mère n'y arrive pas. Mais je sens qu'il n'a aucune envie d'arrêter, en fait. Moi, c'est ça mon véritable problème.
Oui, professeur Dotzenberg.
Il faut arriver à que les personnes se rendent compte que le cannabis ne règle aucun problème, comme l'alcool ne règle aucun problème. C'est-à-dire le cannabis endort un petit peu l'angoisse de tous les problèmes, ça les cache. Mais c'est un petit
ça
peu,
les résout pas.
C'est un peu comme une autruche qui se met la tête dans le sable. On peut prendre les coups de pied dans le derrière quand même. Donc c'est pas une solution et il faut essayer de voir pourquoi il prend du cannabis, essayer de lui faire prendre conscience que finalement sa vie n'a pas plus de sens, que bien sûr ça le calme, il y a des avantages immédiats, mais à moyen terme, il y a beaucoup d'inconvénients et pas d'avantages.
Professeur Dotzenberg, vous l'avez dit, merci Marie pour votre question. Il n'y a pas de traitement de substitution comme il peut y avoir sur certaines drogues ou bien de nicorette ou de choses comme ça qui permettent d'arrêter pour le tabac. On sent bien quand même que beaucoup de consommateurs de cannabis le font pour leur effet calmant, je dirais entre guillemets anxiolytique. Est-ce qu'il n'y a pas de prescription d'anxiolytique qui permette, je dirais, de passer de l'un à l'autre?
Quand on est pris en charge médicalement dans un centre, quand on a 3 joints par jour, oui, on donne des anxiolytiques pour calmer un petit peu la période, en sachant qu'il ne faut non plus pas rentrer dans la toxicomanie aux anxiolytiques. Donc la croyance que les substances prises comme médicaments ou comme drogues, comme le cannabis ou comme l'alcool, règlent les problèmes, c'est une croyance fausse, ça les règle à l'instant. Mais après, ça fait encore plus de problèmes. Donc, l'être humain, le cerveau humain est mieux sans drogue sur le moyen terme. C'est quelque chose de sûr. Et 9 fois sur 10, le cannabis s'arrête assez facilement. Et on a en France, en fait, 2 niveaux de prise en charge. Un niveau jeune consommateur pour les jeunes qui consomment un peu festif ou quelques joints, etc. Où c'est plutôt d'ailleurs des éducateurs que des professionnels de santé qui reçoivent les jeunes. Et puis un niveau centre d'addictologie pour ceux qui sont vraiment accrochés au cannabis. Et là, on peut les aider. Il y a des techniques. Peut-être qu'un jour, il y aura des médicaments qui vont aider. Mais ça réglera pas totalement le problème. Et il ne faut pas compter là-dessus pour arrêter dès maintenant.
Tout à fait, on parlera recherche d'ailleurs tout à l'heure. On a au téléphone le docteur Georges Ouédraogo, qui est pneumologue tabacologue au CHU Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Docteur Ouédraogo, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la consommation de cannabis au Burkina Faso? Est-ce que cette consommation est à peu près évaluée ou c'est très difficile à dire?
Difficile à dire, mais au niveau de l'hôpital où je travaille, avec les services donc de psychiatrie, on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation de la consommation chez les patients qui sont reçus surtout en service de psychiatrie. Par exemple, la prévalence est passée de 54% en 2010 et actuellement, en 2015, nous étions à 86%.
86% de ceux qui passent au service de psychiatrie, c'est ça, sont fumeurs de cannabis?
Ils sont suivis pour usage de drogue, dont 86% utilisent le cannabis.
Sous quelle forme est consommé le cannabis?
C'est beaucoup plus sous la forme d'herbe, puisque c'est ce qui est produit localement et ce qui aussi vient de l'extérieur.
La population a-t-elle conscience des dangers du cannabis?
Oui, la population a conscience et je crois que, comme l'auditrice du Sénégal, c'est surtout les familles qui s'inquiètent de voir les adolescents s'y engouffrer. Oui, la population a conscience.
Et ça veut dire que ce sont plutôt les familles qui vous amènent les patients?
Oui, il y a les familles qui nous amènent les patients, mais en consultation de tabacologie, d'aide au sevrage, nous recevons des patients qui fument et le tabac et le cannabis et on rentre donc en contact avec le service de psychiatrie pour la prise en charge. Donc il y a les familles. Mais aussi certains patients qui nous viennent pour le sevrage tabagique et on se rend compte qu'il y a de la consommation de cannabis qui est associée.
Qu'est-ce que vous pensez, pas forcément vous personnellement, mais qu'est-ce qu'on pense au Burkina Faso de cette question de la dépénalisation du cannabis en disant mais finalement les pays qui pénalisent fortement sont plutôt les pays où on consomme le plus de cannabis et la dépénalisation aboutit plutôt à une baisse de la consommation. Qu'est-ce qu'on en pense au Burkina Faso de cette polémique?
Je n'ai pas de version officielle de ce qu'on en pense, mais entre nous, praticiens, on se demande si ce serait vraiment bénéfique que ce soit dépénalisé. Déjà que c'est pénalisé, si je peux m'exprimer ici, et quand même on se rend compte que beaucoup en consomment, l'accès est facilité, il y a pas mal de pays qui nous entourent, qui en produisent. Déjà au niveau des services de douane, si je prends les données de 2010, si je prends de mémoire, on a saisi peut-être 12 tonnes de cannabis, c'est ce qui rentre beaucoup plus, ce qui est facilement accessible. Alors si on dépénalise, nous nous demandons est-ce que ça ne va pas encore faciliter l'accès.
Professeur Dotzenberg, vous avez envie de réagir à cette question. Est-ce que dépénaliser facilite l'accès?
dépénaliser en France ne faciliterait pas la sèche. Je ne connais pas la situation locale, je ne veux pas me prononcer sur les autres, mais on retrouve le problème essentiel partout, c'est le problème de l'approvisionnement, de l'offre de cannabis. Finalement, quand vous êtes un collégien de Paris, on vient vous offrir, vous faire de la publicité pour le cannabis quand vous avez 14 ans, on ne vient pas vous offrir des tabacs par un. Là, il faut faire la démarche d'aller le faire. Donc la situation actuelle de marché complètement marché illégal lycée, fait qu'il y a une promotion de la consommation de cannabis qui n'existe pas pour les produits légaux parce qu'elle peut être encadrée. Et autant je suis pour la démonisation, autant pour fermer les frontières, saisir et puis voir aussi tout ce qui est production locale et le réglementer fortement, augmenter de façon à ce que l'offre ne parte pas partout, n'importe comment, etc., mais soit canalisée, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ouais. Docteur Georges Ouédraogo, une dernière question. Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place pour aider les patients à décrocher du cannabis?
Alors, schématiquement, nous essayons en collaboration avec le service de psychiatrie. Pour ceux qui nous viennent déjà avec un tableau psychiatrique, on essaie de prendre en charge donc le tableau psychiatrique en priorité. Et puis, parallèlement, autant que possible, on débute donc les entretiens motivationnels pour amener le patient à s'engager dans un processus de sevrage, soit d'arrêt ou de réduction. Maintenant, deuxièmement, ceux qui nous viennent qui ne présentent pas de tableau psychiatrique, on débute d'emblée avec les psychiatres, donc l'entretien motivationnel, et on fait les évaluations somatiques, psychiatriques, judiciaires, etc. Et donc le psychiatre addictologue s'occupe donc de prendre spécifiquement à charge donc ces patients.
Vous voulez réagir, professeur Zonberg?
Non, mais je retiens que 85% des patients de psychiatrie sont des consommateurs de cannabis. Je ne sais pas si pour les jeunes de votre pays, c'est le rêve de finir en service de psychiatrie. Mais si ce n'est pas le rêve, qu'ils arrêtent de consommer et de commencer à consommer.
C'est ça, message à faire passer et surtout éviter de commencer. Merci beaucoup, docteur Georges Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes pneumologue, tabagologue au CHU Yelgado Ouédraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et on a Sid qui nous appelle justement aussi de Ouaga, au Burkina. Sid, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Ok. En fait, j'en consomme le cannabis depuis 2004. Et j'aimerais vraiment arrêter. Parce que maintenant, c'est devenu trop maintenant.
Voilà. Et vous en fumez justement?
J'ai commencé un peu, mais maintenant je suis vraiment dépendant de ça. Chaque matin je fume, à midi je fume, le soir je fume. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter?
Bien sûr que j'ai déjà essayé. Même en février passé, j'ai pas fait une visite à ma famille en Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment carrément arrêté une semaine ici à Ouaga avant de partir en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'ai fait 2 semaines sans consommer de la cannabis, jusqu'à ce que je revienne ici encore. Voilà.
Et vous vous sentez...
Moment où je...
Oui, et vous vous sentez mieux pendant ces 3 semaines où vous aviez arrêté?
Je me sens mieux, mais je n'arrive plus à manger. Je n'ai plus l'appétit. Et je suis tout énervé. Ça, il faut vous dire. Quand j'arrête, je suis vraiment quelqu'un d'autre. Ça, je ne sais pas si c'est une habitude, mais vraiment, quand j'arrête de consommer...
Vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre.
Je n'arrive plus à manger. Je n'ai plus l'appétit. Ça, même cette semaine, j'ai essayé. La semaine passée, j'ai essayé. Même j'avais l'argent. Mon stock était fini, mais j'ai refusé d'aller acheter. Voilà, j'ai refusé d'aller acheter. J'ai essayé de me punir, voir si je pourrais. Et j'ai fait un jour, mais bon, le lendemain, j'ai été obligé de contacter mon fournisseur.
Oui. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui vous pose la question de savoir s'il faut commencer le cannabis ou pas? Vous leur conseilleriez de faire comme vous, de prendre du cannabis ou de ne pas en prendre, de ne pas commencer?
Vraiment, je ne prie même pas Dieu pour mon ennemi pour qu'il commence. Même si c'est mon ennemi qui venait s'arrêter, me demander, je vais lui dire non, ne prends pas ça parce que c'est...
C'est ça. Même à votre pire ennemi, vous ne conseilleriez pas de commencer.
D'accord. Voilà. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir pour les jeunes. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Et quand on peut pas s'arrêter, on est moins bien. Maintenant, je veux vous rassurer, pour l'arrêt, quand on arrête de consommer, quand on a un gros consommateur qu'on s'arrête, c'est très très long à partir. En gros, le cannabis, c'est un joint, c'est une semaine pour tout éliminer, deux joints, deux semaines, trois joints, trois semaines. Si dans la semaine, on a pris 30 ou 40 joints, ça peut mettre des mois à complètement éliminer le cannabis et à se retrouver dans l'état antérieur. L'état de d'être pas bien énervé où vous êtes à l'arrêt, c'est un état passager. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, c'est bien, ou un médecin qui peut vous aider, c'est une bonne chose. Mais après quelques mois, vous allez vous reconstruire sans cannabis et être bien sans cannabis, plus riche, en meilleure santé et avec un meilleur avenir. Et fier de vous.
Professeur Dosenberg, vous venez régulièrement dans cette émission, essentiellement sur le tabac, pour nous dire comment arrêter de fumer. Et vous dites souvent à ceux qui ont arrêté, repris, ben, au bout d'un moment, ça marche d'arrêter. C'est ça ? Et vous diriez la même chose sur le cannabis ?
Ah, c'est exactement la même chose. Et tous les exemples qu'on a eus ce matin, on a vu que toutes les personnes qui avaient arrêté s'étaient éloignées un peu de l'offre, entre guillemets. La poursuite du cannabis, c'est lié à l'offre incessante que l'on a et l'incapacité qu'on a de dire non. Donc il faut apprendre à dire non et s'éloigner de l'offre de façon un peu artificielle, comme il l'a fait. Mais une fois qu'on a arrêté trois semaines, il faut s'accrocher pour... arrêter pour toujours.
Merci beaucoup, Sid, et bon courage à vous pour arrêter. Professeur Dosenberg, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées pour essayer justement de trouver des traitements de substitution ou des médicaments qui pourraient aider à arrêter la consommation de cannabis ?
L'homme a dans son corps des systèmes endocannabinoïdes, comme on a des systèmes endomorphiniques. On a des récepteurs du cannabis qui s'appellent CB1, CB2 dans le corps, dans le cerveau, mais aussi dans la graisse intestinale et un peu partout. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour utiliser ces récepteurs qui sont quelque chose d'important pour le corps. Mais pour l'instant, on n'a pas de choses qui marchent et qui sont intelligentes.
Mais il y a des recherches dans ce domaine.
Ah, il y a beaucoup de recherches sur les récepteurs et en particulier pour modifier l'humeur et traiter les maladies psychiatriques en particulier.
Donc on arrive à la fin de cette émission. Un conseil juste pour terminer, professeur Dosenberg.
Ne pas commencer, c'est infiniment plus simple que d'arrêter quand on est à 3 joints par jour. Et si on prend du cannabis, prendre du cannabis propre, entre guillemets, mais le mieux, c'est de rien prendre du tout.
Merci beaucoup, professeur Dosenberg. Je rappelle que vous êtes pneumologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on va terminer cette émission en parlant du virus Zika.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose donc de faire un point sur le virus Zika qui est véhiculé par des moustiques et qui est en train de se propager de manière explosive en Amérique latine, à la Martinique, au Guadeloupe et en Guyane. Professeur Eric Homme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du comité des maladies liées au voyage et des maladies d'importation au Conseil de la Santé publique. Vous êtes également chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Aujourd'hui, l'OMS organise une réunion d'urgence à Genève. D'abord, quels sont les risques de ce virus Zika ?
Ben écoutez, les risques peuvent apparaître comme ça assez faibles de prime abord, puisque la maladie peut être asymptomatique dans 3 cas sur 4. Dans un cas sur quatre, elle donne des symptômes qui sont assez banaux, qui ressemblent un peu à ceux de la grippe ou de la dengue ou du chikungunya pour ceux qui vivent en pays d'endémie, c'est-à-dire principalement une petite fièvre, une éruption cutanée, des courbatures et puis éventuellement une conjonctivite. Le problème actuel du Zika est plus lié aux complications secondaires qui peuvent survenir chez des personnes qui ne se souviennent même pas avoir eu une infection. Par exemple, il y a des complications neurologiques qui ont été décrites, qu'on appelle syndrome de Guillain-Barré. Puis bien évidemment, il y a tout le problème de l'infection contractée au cours de la grossesse.
Avec des risques de malformation congénitale, on a compris que c'était rare. Ce virus Zika se transmet par un moustique.
Alors, le virus Zika se transmet par piqûre de moustiques, principalement à Aedes aegypti, actuellement en zone épidémique.
Quels sont les traitements et les moyens de prévention ?
Ben, malheureusement, c'est là qu'est tout le problème. Il n'y a pas de traitement curatif, il n'y a pas de traitement préventif, notamment vaccinal ou médicamenteux. La seule prévention possible, c'est de se protéger des piqûres de moustiques.
Et alors, comme on se protège sur d'autres piqûres de moustiques, mais à quel moment ce moustique pique-t-il ? On sait par exemple que pour le palu, c'est plutôt la fin de journée. Qu'en est-il pour...
Alors, le palu, effectivement, c'est plutôt même la nuit. Hein. Par contre, la dengue, le chikungunya ou le zika, transmis par Aedes aegypti, c'est plutôt le jour.
Donc ça veut dire qu'il faut se protéger tout le temps, toute la journée?
Ben oui, c'est effectivement le problème. Il pique surtout aux heures extrêmes de la journée, mais il peut... Voilà, donc il faut se protéger dans la journée. Ouais.
Pourquoi ce virus se propage-t-il aussi rapidement?
Ben, principalement parce qu'il se propage dans une population qui est indemne, c'est-à-dire qui n'a jamais rencontré ce virus. Et une fois que toute la population aura été infectée, ou en tout cas qu'une grande partie d'entre elles aura été infectée, eh bien à ce moment-là, le virus ne fera plus parler de lui, parce que même s'il continue à circuler, toutes les personnes seront immunisées.
C'est-à-dire que le corps apprendra à réagir, c'est ça?
C'est-à-dire que, en fait, il faut, pour qu'une épidémie comme ça ait lieu, il faut que le virus puisse cheminer dans une population qui n'a pas d'anticorps, qui n'a jamais rencontré le virus. Or, le virus, c'est la première fois qu'il arrive en Amérique latine, et même en Amérique tout court, et donc il arrive dans une population qui n'a aucun souvenir immunitaire de cette infection.
Quels sont les pays les plus touchés ?
Alors actuellement, c'est certainement le Brésil qui est le plus touché, mais probablement parce que c'est lui qui a la population la plus importante en Amérique latine. Mais sinon, tous les pays d'Amérique centrale, tous les pays, la plupart des pays d'Amérique du Sud, en tout cas tous ceux du Nord, de l'Amérique du Sud, plus les Antilles, maintenant les Caraïbes sont touchés.
On connaît mal ce virus.
Oui, c'est exact.
Et on connaît assez mal. Et alors j'imagine qu'il y a des recherches qui sont menées là-dessus, mais on connaît mal aussi son moyen de transmission, c'est-à-dire qu'on se pose la question, certes le moustique, mais ça pourrait n'être pas que ça.
Si, a priori, c'est des phrases, en dehors de la transmission materno-fœtale, hein, qui est avérée, mais en dehors de ça, c'est le principal mode de, enfin, c'est le seul mode de transmission par piqûre de moustique. Alors, évidemment, il y a d'autres possibilités, transfusion, etc., mais c'est très peu, c'est pas du tout le problème à l'heure actuelle.
C'est ça, le problème pour l'instant, c'est le moustique. Quel conseil faut-il donner aux personnes qui vivent dans ces régions ou aux personnes qui vont voyager dans ces régions?
Alors pour les personnes qui vont voyager dans ces régions, on est tous assez concordants, c'est-à-dire que si possible, retarder le voyage en zone d'endémie, ou en tout cas si on part, partir en toute connaissance de cause et se protéger de façon très importante contre les piqûres de moustiques. Là où il y a des disparités, c'est en ce qui concerne les recommandations qui sont faites pour les personnes qui vivent en zone d'endémie, où là, on entend... Il y a certaines personnes qui recommandent de retarder la grossesse après le pic épidémique. Et puis, il y a d'autres personnes qui recommandent simplement de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'informer les femmes enceintes.
C'est ça, on est en ce moment en pic épidémique. C'est lié à une période de l'année. On peut penser que dans quelques mois, ça va se calmer.
Je pense qu'au Brésil, ça va se calmer, parce que là, en fait, on est en plein été. Hein, donc, comme on est en plein été dans l'hémisphère sud, forcément, les moustiques s'en donnent à cœur joie, si je peux dire. Et dès qu'on va rentrer dans l'hiver austral, dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, théoriquement, les maladies à transmission vectorielle, comme la dengue, le chikungunya et donc probablement le Zika, vont baisser en intensité, puisqu'il y aura beaucoup moins de moustiques.
Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, organise une réunion d'urgence à Genève. Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle réunion?
Écoutez, je n'en sais trop rien.
Vous n'êtes pas Madame Soleil, mais quand
même. Non, voilà. Je suis toujours circonspect sur ce qui peut se passer à l'OMS, donc il faut attendre de voir ce qui en sortira.
Mais qu'est-ce qui peut être pris comme décision collective? Vous l'avez dit, en individuel, c'est d'utiliser des répulsifs, d'essayer de se protéger. Mais de façon collective, qu'est-ce qu'on pourrait espérer fait par les États ou les services de santé?
C'est là que je suis un peu plus circonspect, effectivement, parce que c'est le même moustique que celui qui transmet la dengue et le chikungunya, et on n'a pas pu faire grand-chose pour stopper la progression de la dengue et du chikungunya, en tout cas dans l'hémisphère, enfin en tout cas en Amérique latine. Donc je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire pour lutter contre ce moustique et donc pour lutter contre le Zika.
Donc si ce n'est... Oui, allez-y.
Là où il y a peut-être des choses à faire, c'est au niveau des femmes enceintes et puis des préventions des complications néonatales, même si je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine.
Professeur Errico, merci. Je rappelle que vous êtes président du comité des maladies liées au voyage et des maladies d'importation au Conseil de la Santé publique. Vous êtes également chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous viendrez prochainement nous parler plus longuement de ce virus Zika. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vous propose de parler d'un tout autre sujet, c'est de l'arrivée de nouveaux traitements contre l'hépatite C sur le continent africain. Un sommet sur les hépatites B et C s'est tenu la semaine dernière à Dakar. Les médecins dénoncent un déficit d'informations sur ces maladies, critiquent également le coût parfois exorbitant des traitements. Alors le laboratoire Gilead a mis au point un traitement révolutionnaire pour l'hépatite C, disponible en France et aux États-Unis depuis un an. 90% des patients guérissent en 3 mois. Aux États-Unis, ce traitement coûte très cher, $80,000, autour de 50,000 euros en Europe. Graham Robertson est le directeur Afrique de Gilead et a annoncé justement la semaine dernière que ce traitement serait vendu beaucoup moins cher en Afrique. Il est au micro de Guillaume Thibault.
In terms of hepatitis C, so we have a price for Sovaldi.
Concernant l'hépatite C, pour l'Afrique, nous avons un prix pour le Sovaldi Sovosbuvir et un prix pour le Harvoni, qui est une combinaison de Ledipasvir et de Sovosbuvir. Un flacon de Sovaldi Sovosbuvir coûte $300, ce qui porte le traitement complet à $900. Et pour le Harvoni, c'est $400 le flacon, ce qui revient à $1,200 un traitement complet.
We also have given licenses to Indian generic manufacturers.
Nous accordons aussi le droit des laboratoires indiens de médicaments génériques de produire ce traitement et nous espérons ainsi pouvoir en réduire le prix pour les personnes malades en Afrique. Le traitement tourne autour de $180 le flacon et nous avons bon espoir de pouvoir encore en baisser le prix. Ce qui signifie que nous ne le mettrons pas sur le marché au même prix que pour les pays développés. Je crois que c'est autour de 1% du prix auquel nous le commercialisons aux États-Unis et en Europe. C'est l'approche que nous avons à Gilead. Permettre à des laboratoires de médicaments génériques de produire des médicaments de marque à un prix réduit.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, l'assurance d'être en de bonnes mains. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.